Ta présence est le ciel pour moi. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nos contemporains? Qu'est-ce qui est vraiment important pour chacun d'entre nous? Pour certains, l'important dans la vie, c'est la réussite financière. Pour d'autres, peut-être, c'est se marier, fonder une famille. Pour d'autres, c'est être apprécié, être reconnu, ou encore être en bonne santé, ou être guéri d'une maladie ou d'une infirmité. Mais qu'est-ce qui est le plus important aux yeux de Dieu? L'important n'est pas toujours ce que l'on croit. Je vous invite à ouvrir la parole. Dans l'évangile de Marc, nous sommes dans l'évangile de Marc depuis quelques dimanches. Nous sommes toujours au début de l'évangile de Marc, Marc 2. Marc 2, les premiers versets 1 à 12. Jésus est au tout début de son ministère, encore. Il a guéri la belle-mère de Pierre, il a guéri un lépreux. Et quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Gloire à Dieu, un paralytique sauvé, restauré, debout, qui rentre chez lui. Est-ce que ce n'est pas ce que nous aspirons tous à vivre, à expérimenter? Reprenons un petit peu l'histoire depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus est au début de son ministère. Mais il a déjà délivré quelqu'un de démon. Il a déjà fait plusieurs guérisons. Et quand il prêche, les gens reconnaissent qu'il prêche avec autorité. Alors tout le monde le suit. Et depuis qu'il a guéri un lépreux et qu'il lui a dit « Surtout ne dis rien, va juste te présenter au sacrificateur au temple », mais que ce lépreux, il l'a raconté à tout le monde, Jésus ne peut plus aller enseigner dans les synagogues. Il est obligé d'aller dans des endroits où il y a de la place. Il va, par exemple, au bord du lac de Galilée. Et ce sont des foules qui s'attroupent pour aller l'écouter. Des foules qui sont suspendues à ses lèvres. Alors, quand Jésus revient à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Cette maison, on ne sait pas laquelle c'est, ça n'est pas précisé. Jésus vient de Nazareth, donc ce n'est pas chez lui, mais c'est peut-être et probablement chez Pierre. Peu importe. Imaginez juste la situation. Jésus est fatigué, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a juste envie d'un petit peu de calme. Il rentre dans la maison et toute la foule s'engouffre avec lui. Et il se réparpille dans la maison, il s'installe et lui, il est serré comme une sardine là au milieu et puis il n'a plus qu'à prêcher la parole. Parce que les gens sont suspendus à ses lèvres. Ils ont faim, ils ont soif. Alors Jésus, il ne leur dit pas, écoutez les gars, je suis un petit peu fatigué là. Une demi-heure, s'il vous plaît, une demi-heure. Non, rien du tout. Jésus, il enseigne la parole. J'aurais tellement voulu entendre Jésus enseigner la parole. Ça veut dire quoi, Jésus qui enseigne la parole? Jésus, il enseigne l'Ancien Testament, les textes de notre Ancien Testament. Et il devait les expliquer. Mais on ne sait pas exactement comment. Parce qu'il y a encore des choses qui étaient voilées et il voulait les laisser un peu voilées. Mais imaginez cette foule dans cette maison, dans chaque pièce, il y a du monde. Il y a tellement de monde qui s'entasse jusque devant la porte. Les gens, ils regardent comme ça pour essayer de tendre l'oreille, pour entendre ce qu'il dit, voir ce qu'il fait. Et il y a quatre gaillards qui arrivent, qui portent une civière avec un paralytique dessus. Et c'est impossible. Impossible d'entrer. Alors que font-ils ces gars? Il faut dire qu'on ne sait pas vraiment qui c'est. En général, on dit les quatre amis du paralytique. Mais moi, je suis allée regarder dans les textes et le mot ami, je ne l'ai pas vu. Donc je me dis, peut-être que c'est quatre amis, peut-être que c'est quatre personnes de la famille, peut-être que c'est des personnes qui sont mandatées pour s'occuper de ce paralytique et ils nécessitent sûrement des soins un petit peu jour et nuit, un petit peu 24 heures ou en tout cas 7 jours sur 7. Et au bout d'un moment, peut-être que c'est lourd. Alors d'imaginer que Jésus est coincé dans la maison, quelle aubaine! Pourquoi est-ce qu'ils amènent le paralytique à Jésus? On ne connaît pas... Pardon? Parce qu'ils ont la foi. Mais ils ont la foi pourquoi? Pour qu'ils soient guéris. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas la raison. On ne sait pas qui sont ces hommes. On ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur, à part qu'ils sont motivés, qu'ils ont la foi pour que il se passe quelque chose dans la vie de ce paralytique et sûrement qu'il soit guéri. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont obligés de prendre l'escalier extérieur parce qu'à l'époque, les maisons étaient des maisons avec des toits plats. C'était pas des maisons coulées avec des dalles de béton, bien sûr que non, mais c'était des maisons en dur. Et ce dur, c'était fait avec de la terre, avec de la paille. Et il y avait un escalier extérieur pour pouvoir se rendre sur ce toit plat. Alors imaginez un peu ces gars qui tiennent cette civière comme ils peuvent et qui montent les escaliers. Je suis même pas sûre qu'il y avait une barrière ou quelque chose, il fallait juste pas déguiller, il fallait vraiment tenir la civière à l'horizontale, monter une marche après l'autre, et puis ensuite prendre le virage, aller sur le toit, poser la civière, creuser, déblayer ce toit, confectionner des cordes ou quelque chose pour pouvoir le descendre. Et enfin, le brancard arrive devant Jésus. Il y a des victoires dans la vie qu'il faut aller chercher dans le ciel. Parfois, les exaucements, les exaucements, il faut aller les chercher par le toit, mes amis. Combien de fois est-ce que nous prions pour quelque chose ou pour quelqu'un qui nous est cher? Et c'est comme s'il y a des obstacles, il y a du monde devant la porte. C'est comme si on n'arrive pas à atteindre Jésus, on n'arrive pas à atteindre le cœur de Jésus. Parce qu'on s'y prend mal. Parce qu'on prie à l'horizontale. On prie de manière naturelle, plutôt que d'utiliser les choses spirituelles, plutôt que de gravir les marches. Chercher Dieu, chercher sa direction, aller voir dans la parole ce qu'il dit, tout à coup se mettre à faire du combat spirituel, discerner quels sont les esprits qui tiennent cette personne prisonnière, se mettre à combattre, aller chercher des amis, prier ensemble. Il y a tellement de choses à faire et à construire dans la prière. En fait, c'est comme si ces quatre hommes, ils changent de catégorie. Ils déblayent les lieux spirituels pour faire venir la solution du ciel sur la terre. Ça devrait nous interpeller sur notre manière de prier lorsqu'on présente quelqu'un à Dieu. Mais toujours est-il que la démarche des quatre hommes déclenche quelque chose. Imaginez cette civière qui descend comme ça, puis qui arrive devant les yeux de Jésus. Jésus voyant leur foi. Jésus voit leur foi, c'est pas le paralytique qu'il voit. Jésus voyant leur foi, ça déclenche quelque chose. Ça déclenche quelque chose dans le cœur de Jésus. Et une parole sort. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Stupeur. Imaginez un peu le silence radio dans la salle. Le paralytique descend du ciel. Jésus voit leur foi. Il est ému. Et à quoi s'attendent tout le monde? À ce qu'ils lui disent, mais lève-toi et marche. Mettez-vous un peu à la place du paralytique. Vous arrivez comme ça devant les yeux de Jésus, vous êtes dans un face-à-face, et Jésus vous dit, tes péchés sont pardonnés. Mettez-vous un peu à la place des quatre amis. On va quand même dire que c'est des amis. Qu'est-ce qu'ils ont dû ressentir? Ou toutes les personnes qui sont dans la salle et qui attendent que Jésus fasse un miracle. Il en a déjà fait, on sait qu'il peut en faire. Et tout le monde qui attend, et ils entendent, tes péchés sont pardonnés. Vous arrivez à vous mettre un petit peu à la place de ces gens? Comment est-ce que vous auriez réagi? Est-ce que quelqu'un aurait peut-être eu un tout petit peu de frustration? S'il y a de la frustration, mes amis, c'est que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas qu'il est plus important de retrouver la relation et la communion avec Dieu que d'être guéri physiquement. Et ça devrait encourager ceux qui se battent contre une maladie, contre une infirmité ou contre quelque chose qui pourrit la vie. Il est plus important de retrouver la relation et la communion avec Dieu que d'être guéri physiquement. Et le problème, c'est que nous ne comprenons pas que notre péché nous empêche de vivre pleinement la vie à laquelle ou pour laquelle nous avons été créés. Notre péché nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée. Nous marchons à côté de notre destinée lorsque nous sommes dans le péché. La vie éternelle, Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est Jésus qui prie, c'est sa dernière prière avant d'aller à la croix. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, mes amis, la vie, la vraie vie, la pleine vie, la plénitude de vie, être vivant, vivifié, c'est de connaître le Seigneur. Mais ce n'est pas connaître avec la tête. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Bien sûr, quand on a les compréhensions avec la tête, ça aide, bien sûr. Et on ne peut pas se fractionner. Mais connaître le Seigneur, c'est l'expérimenter. La vie éternelle, c'est d'expérimenter Jésus. C'est d'expérimenter sa présence, mais plus que sa présence, sa personne. C'est de faire un cœur à cœur avec lui, corps à corps avec lui. C'est d'être dans sa lumière, c'est d'être inondé de sa lumière. C'est de le voir tel qu'il est. C'est notre espérance. Être dans un face-à-face sans obstacle. Être baigné dans sa présence. Et c'est alors que nous sommes guéris. Et c'est alors que nous sommes restaurés. C'est alors que nous sommes renouvelés. Jésus est tellement ému. Il est tellement ému par la foi de ces hommes, mais certainement aussi par l'état de ce paralytique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne dit pas un mot. Le paralytique, il ne bouge pas. Pas un cil. Il ne dit pas un mot. On ne sait pas du tout où il en est. Mais Jésus, lui, il voit. Et parce qu'il voit que ce paralytique, il est en mort spirituelle, Jésus va droit à l'essentiel. Le pardon des péchés pour lui redonner la vie. C'est ce qu'il y a de plus important. Le plus important dans la vie, c'est d'être pardonné. Le plus important, c'est d'être pardonné. Et ça, c'est une vérité qui devrait nous accompagner au quotidien. Nous savons que nous sommes chrétiens, nous savons que nous appartenons au Seigneur. Mais si nous ne comprenons pas que le plus important, c'est d'être pardonné, nous loupons quelque chose. Si nous comprenons que le plus important est d'être pardonné, nous conformons notre vie à ce que le Seigneur nous demande, à sa parole. Nous nous repentons chaque fois que c'est nécessaire. Nous comprenons que les autres, même ceux qui nous font du tort, ont aussi besoin d'être pardonnés. Et ça nous permet d'avoir un jugement un petit peu différent. Vous savez, il y a des personnes qui reçoivent la prière, des personnes qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, qui reçoivent la prière et qui sont guéries. Combien de fois c'est déjà arrivé? Par exemple, dans des campagnes d'évangélisation où il y a beaucoup de miracles, parce que c'est surtout comme ça, ou aussi comme ça que le Seigneur attire les gens à lui. Des gens ont reçu la prière, ils sont guéris, mais ils ne se convertissent pas. C'est arrivé, et ça arrive encore, et ça arrivera encore. La guérison n'est pas ce qu'il y a de plus important. La guérison, mes amis, c'est d'être pardonné pour pouvoir retrouver cette relation que le Seigneur désire et qu'il a prévue pour nous. Et d'ailleurs, est-ce que ce ne sont pas nos péchés qui nous rendent infirmes? L'histoire pourrait s'arrêter là. Le paralytique, il a reçu ce dont il avait besoin. Mais il y a des intrus. Vous avez fait attention? Il y a des scribes. Les scribes, c'est les spécialistes de la loi, c'est-à-dire c'est ceux qui connaissent la parole, qui sont censés la connaître. C'est ceux qui sont censés l'enseigner dans la vérité. C'est ceux qui sont censés y reconnaître le Messie, savoir d'où il vient, qui il est, ce qu'il fera, que l'onction du Seigneur est sur lui et qu'il ouvrira les yeux des aveugles et qu'il guérira les malades et qu'il libérera les captifs. Mais ils sont complètement aveuglés parce que leur cœur est tordu. Ils ont comme un voile et ils sont là, au milieu de la foule. Alors eux non plus, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont quand même un petit peu en danger, donc ils ne disent rien. Mais Jésus est un petit peu le Seigneur quand même. Et Jésus, il sait ce qui se passe dans les cœurs. Il sait ce qui est en train de se passer. Et ils murmurent en eux-mêmes. Verset 7, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» La question vous est posée ce matin. Qui peut pardonner les péchés? Qui? Et sur quels critères? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est celui qui a défini ce qu'est un péché? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est celui qui a défini ce qu'est le bien et ce qu'est le mal? Donc celui qui est au-dessus de tout ça. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est celui qui n'a jamais péché? Si quelqu'un m'a fait du tort. Dernièrement, il y a quelqu'un dans l'église qui avait sa voiture parquée quelque part dans la rue, dans une rue de la Chaux-de-Fonds, et quand il est allé récupérer sa voiture, il manquait une poignée. La poignée, elle était par terre. Donc tous les câbles, tout ça, tout a été arraché. Ça sentait l'acte malveillant à plein nez. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a fait ça. Et la personne a dit, mais c'est pas grave, c'est de la tôle. Ça, c'est la bonne compréhension. Il y a plus important. Mais le plus important, c'est d'être pardonné. Donc, cette personne peut se dire, mais ok, je pardonne à la personne qui m'a fait ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est certainement un geste gratuit, sûrement que la personne ne sait même pas à qui appartient la voiture. On peut pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. Ça nous libère du mal qu'on nous a fait. C'est comme si on se détache de la personne qui nous a fait du mal quand on pardonne. Mais parfois, quand on a l'occasion de dire à la personne « Je te pardonne, je n'ai plus rien contre toi », c'est un acte de grâce où on libère la personne. Il n'y a plus rien qui nous lie. Le pardon est une puissance qui libère. Mais le péché, est-ce que c'est le péché que nous pardonnons ou est-ce que c'est le tort qui nous a été fait? C'est assez subtil. Parce que cette personne... Il n'en demeure pas moins qu'elle a arraché la poignée de la voiture et qu'elle a des comptes à rendre. Plus haut. Lorsqu'on commet un péché, c'est à Dieu que nous avons des comptes à rendre. Nous sommes pécheurs, nous sommes dans une nature de péché. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons et nous devons nous pardonner les uns les autres, mais nous nous pardonnons les torts spécifiques que les uns et les autres nous ont faits. Nous ne pouvons pas pardonner les péchés de quelqu'un. Même si on vient me demander pardon 15 fois dans la même journée, je peux pardonner 15 fois, mais je ne peux pas pardonner les péchés. Je ne peux pas enlever la nature de péché d'une personne qui m'a fait du tort. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors certains diront, oui, mais pour pardonner les péchés, il y a encore un critère de plus. Il faut qu'il y ait le sang qui coule. Il faut qu'il y ait sacrifice. Et c'est certainement à ça que pensent les scribes. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort dans leur réflexion. Parce que c'est quand même les spécialistes de la loi. Donc ils connaissent les sacrifices de l'Ancien Testament. Ils savent que pour telle chose, il faut tel bélier, tel agneau, tel pigeon, tel animal, et qu'il faut qu'il soit sans défaut, etc. Et qu'il faut les sacrifier, il faut les égorger, il faut que le sang coule. Alors comment est-ce que Jésus peut pardonner les péchés? Parce que là, il est au début de son ministère. Il ne s'est pas encore offert à la croix. C'est vrai. C'est vrai, mais Jésus est pleinement Dieu tout de même. Et vous savez, c'est comme s'il agit par anticipation. Parce que nous tous qui sommes sauvés, nous sommes dans le déjà et le pas encore. On est sauvés, mais on est toujours dans notre nature limitée. On subit le vieillissement, on subit les conséquences du péché. Mais nous savons qu'un jour, quand Jésus reviendra, il nous transformera. Donc nous sommes déjà pardonnés, nous sommes déjà sauvés, mais nous ne sommes pas complètement accomplis dans ce salut. Et nous savons qu'un jour nous serons complètement guéris, mais ça n'est pas encore accompli. Mais par anticipation, Jésus nous a déjà sauvés. Il nous a sauvés à la croix, ça c'est pas de l'anticipation, c'est fait. Mais par anticipation, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Par anticipation, nous sommes déjà son corps. Eh bien, c'est la même chose, parce que Jésus savait pertinemment qui il était. Et c'est là que j'aimerais que vous compreniez les richesses de la parole de Dieu. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À qui est-ce que Jésus fait référence ? À qui est-ce qu'il s'identifie ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, le Fils de l'homme ? Oh, on pourrait en faire des prédications sur juste le Fils de l'homme. Mais il fait référence, il est en train de dire d'une manière mais à peine voilée, il est en train de dire qu'il est le Fils de l'homme. Sûrement que dans les évangiles, vous avez souvent lu cette appellation. Mais il n'est pas là par hasard. Il y a quelqu'un bien avant lui qui a utilisé. Ça vous parle ? Un petit peu, pas tout à fait, on n'est pas sûr. Daniel 7, le prophète Daniel. Oui, il y a des sourires, il y a des visages qui s'illuminent tout à coup. Daniel 7. Daniel, il a un songe, il en a eu plusieurs. Daniel, c'est un homme qui avait une vie consacrée, qui passait du temps en prière, en jeûne, qui a vu des choses extraordinaires, qui a vécu la puissance de Dieu. Et je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne sur tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Imaginez un peu la vision de Daniel. Daniel, il a été terrassé par la vision qu'il a vue. Il a vu le Seigneur en gloire. Daniel parle du Fils de l'homme comme le Fils de Dieu glorifié. Et Jésus est le Fils de l'homme incarné, mais il est toujours la même personne. Et voilà pourquoi il peut déjà pardonner les péchés, parce qu'il sait qu'il ira jusqu'au bout. Il sait qu'il est là pour aller à la croix. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Et nous pouvons encore aller dans Apocalypse. Alors là, Apocalypse est écrit plus tard. Jésus est déjà glorifié au moment où l'Apocalypse est écrit. J'aurais dû écrire ma référence. Mais au tout début, Jean a une vision du Seigneur. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et un peu plus loin, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, verset 12 du premier chapitre. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le feu, comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il s'agit de la même personne, le Fils de l'homme. Et Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, c'est-à-dire en étant incarné et parmi vous, le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton lit et rentre chez toi. Et aussitôt, le paralytique se lève, ramasse sa civière, enroule tout ça sous le bras et il sort et tout le monde se met à célébrer la gloire de Dieu. Ils ne comprennent pas que c'est Jésus parce que c'est pas Jésus qu'ils adorent, mais ils célèbrent la gloire de Dieu. Le paralytique, il est restauré. Il est restauré parce qu'une fois qu'il est debout, il est restauré socialement. Il est restauré peut-être professionnellement. Il est restauré au niveau familial. Il est restauré au niveau de ses émotions parce qu'il n'est plus paralysé, il n'est plus infirme. Et il est restauré parce que sa relation avec le Seigneur a été rétablie. De mort spirituelle, il est passé à la vie éternelle. Il est éternellement vivant. Alors mes amis, le plus important pour nos vies, c'est d'être pardonné. C'est de retrouver la relation avec Dieu. Mais Jésus sait que nos besoins physiques, c'est important. Jésus sait que notre réalité terrestre, elle est importante. Ça compte pour lui. Et c'est parce qu'il est plein de compassion et qu'il comprend ces choses, et parce que nous avons de la valeur à ses yeux, qu'il relève le paralytique. D'abord, il lui pardonne pour enseigner quelque chose d'essentiel. Il ajoute encore plus de grâce pour le relever. Alors c'est important que nous comprenions qui nous sommes devant lui. Comprenons que la foi des 4 hommes a déclenché l'action de Jésus. La foi a déclenché la restauration de la relation. Et la foi a déclenché la guérison physique. Lorsque nous venons avec nos sujets de prière ou les infirmes qui nous entourent, que nous apportons, les paralytiques que nous apportons au Seigneur. Ayons cette foi de ces quatre hommes, utilisons la voie spirituelle, en ayant conscience que c'est devant ce Fils de l'homme, ce Dieu vivant, qui existe avant l'éternité, et après l'éternité, ça n'existe pas. De toute éternité, de tout temps, il n'y a plus la notion du temps au ciel. Ce Fils de l'homme, ce Dieu tout-puissant, c'est à lui que nous nous adressons. Et c'est lui qui intervient. Que la parole de Dieu nous encourage à comprendre qui est notre Dieu. Que la parole de Dieu nous encourage à rechercher à être pardonnés. Nous le sommes. Mais peut-être que nous avons besoin de le comprendre de manière toujours plus profonde. Et que si quelqu'un a une infirmité, a une blessure, a quelque chose de un handicap, un problème de santé, qu'il puisse venir au trône de la grâce, rechercher déjà la restauration de sa personne, comprendre qui est son identité et demander la grâce de Dieu pour la guérison physique. Mais faites votre priorité des choses qui sont vraiment importantes. Et que ça vous encourage, quoi que ce soit que vous traversiez. Il y a un Dieu de grâce et de compassion qui vous attend dans les lieux célestes pour vous emmener dans son admirable lumière. Pour nous emmener dans son admirable lumière. Pour faire un avec lui. Amen. Seigneur, que ton esprit vienne maintenant convaincre nos cœurs. Que ton esprit vienne nous visiter et nous montrer qui nous sommes devant toi, où est-ce que nous en sommes devant toi. Seigneur, je te demande de venir restaurer la relation entre toi et nous. Je te demande de venir restaurer la relation entre chacun. Je te demande, Seigneur, que les personnes qui ont besoin de guérison puissent vivre la guérison. Mais je te demande que ces personnes puissent d'abord voir leur vie restaurée devant toi. Là où il y a encore de la mort dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, je te demande qu'ils puissent passer de la mort à la vie. Là où il y a encore des domaines dans leur vie, Seigneur, je te demande de toucher, de poser ta main qui restaure, qui relève, qui guérit, qui pardonne, qui purifie. Je te demande, Jésus, pour chacun d'entre nous, de venir poser ta main là où il y a des obstacles, là où nous sommes séparés de toi. Viens poser ta main, viens convaincre nos cœurs, attire-nous à toi. Lave-nous, purifie-nous. Restaure-nous, guéris-nous, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, à cause de ta volonté. Amen.